J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30 à peu près, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 28e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur indinois Bernard Courtebras, dont les deux derniers livres, La femme du lieutenant et Tentative, sont parus le 28 novembre 2022 et le 25 juin 2024 chez Nombre 7 éditions. Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu préfères le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on te présente ?
Auteur avec un H ? Non, je suis un amateur qui soigne son anxiété par l'écriture.
Donc, auteur, ça va alors ?
Auteur, oui, en fait, je me suis mis à écrire parce que je me suis aperçu que j'étais un grand anxieux et qu'il y avait d'autres manières que l'anxieux pour calmer son anxiété, cherche à se faire peur, cherche un objet. Et donc, au lieu, on pourrait. Certains font des sports à risque, d'autres se mettent en danger de manière problématique. Moi, j'ai décidé de me mettre en danger dans la création. Et donc, une prise de risque. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Sinon, j'ai pas de finalité particulière. C'est simplement calmer, avoir un objet pour se arranger.
Mmh. Alors, les mathématiques ont eu une très grande importance et une grande influence sur ta vie professionnelle. Alors, quelle place à l'époque tu avais laissé aux Français ?
Alors,
à l'école.
Alors déjà, les mathématiques aussi, je vais faire une petite aparté. Les mathématiques, c'est un refuge aussi. C'est-à-dire qu'on a l'anxiété, ça coupe du monde. C'est-à-dire pendant qu'on fait des mathématiques, on ne pense pas à toutes les problématiques environnementales, politiques, géopolitiques. Quant à l'expression français, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait être bon en tout. En français, en philo, en histoire. Je me disais, j'avais une analogie à un moment donné, je me disais, quand on construit une maison, on ne fait pas un étage très très haut et puis on laisse tous les autres tout en bas. C'est-à-dire, on essaye de monter les murs partout de la même hauteur. Donc, on doit faire un peu de mathématiques, un peu d'histoire, un peu de français, d'écriture, de lecture, voilà.
Alors, ta vie littéraire a basculé en seconde C au lycée Lalande, où tu avais un professeur de français qui t'a donné envie de lire. Alors, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres et qu'il n'avait pas eu auparavant à l'école ?
Alors, c'était Monsieur Épée. Et donc, ce qu'il avait, c'est un charisme, une élégance, une finesse, une classe exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a certains enseignants, certains professeurs. C'est comme une scène de théâtre. L'estrade est une scène, c'est-à-dire, c'est fascinant. On a des émotions, on sourit, on pleure, on est attentif, on n'a pas envie de dormir. Voilà, c'est ça, quelqu'un qui attire notre attention et qui aussi nous reconnaît, c'est-à-dire qui nous encourage dans notre évolution. Il nous aide à prendre conscience qu'on n'est pas complètement nul. Et en fait, maintenant, j'ai compris qu'un très bon professeur, c'était quelqu'un qui permettait à un élève qui reconnaissait dans un élève un potentiel.
On a souvent séparé ce que l'on appelait les scientifiques des littéraires et ils ne se mélangeaient pas forcément, notamment dans les lycées. Tu étais de quel côté, toi, à cette époque ?
Non, j'étais des deux côtés. En particulier, j'étais du côté scientifique au niveau mathématique Et puis, j'étais fasciné et intéressé par des amis qui étaient en section littéraire et qui, eux, avaient une culture que je ne connaissais pas. Ils parlaient de Roland Barthes, ils parlaient de Visconti, ils parlaient de Fellini, ils parlaient de Marcel Proust. Et donc, c'est en faisant... En faisant un peu mon marché dans tous les champs que j'ai réussi à me construire. Mais il n'y avait pas que la littérature, il y a aussi les sciences sociales, en particulier la sociologie, la psychologie.
Alors, tu as choisi les mathématiques et tu étais spécialisé dans la sociologie et l'épistémologie du calcul des probabilités, plus précisément dans l'histoire sociale de leur découverte et de leur invention. Alors, entre enseignement et recherche, ton cœur a toujours balancé.
Alors, c'est compliqué parce que faudrait préciser de quoi.
Oui.
L'enseignement, c'est vrai que c'est très, très. Enfin, il y a plusieurs moments dans l'enseignement. Moi, j'ai enseigné dans tous les niveaux. J'ai enseigné à l'école primaire. J'ai commencé comme instituteur. J'ai adoré. En collège, on le sait, c'est beaucoup plus difficile. Le rapport avec les adolescents est compliqué. C'est parfois tendu. J'ai pas été toujours très très bon. Au lycée, c'est bien. L'enseignement supérieur aussi. Après, la recherche, ça dépend de la recherche en quoi. Parce que moi, j'étais invité à faire de la recherche dans ce qu'on appelle la didactique des enseignements, la spécificité des disciplines. Mais j'aime mieux la recherche en sociologie des dispositions. Alors, on pourra en parler. C'est l'objet du deuxième livre que j'ai publié, qui s'appelle Tentative. Je reviendrai pour préciser un peu en quoi je suis intéressé pour comprendre comment on se construit, comment se construit notre personnalité, nos dispositions, comment on devient ce qu'on devient, quoi.
Alors, pendant que tu enseignais l'histoire sociale des probabilités, alors quelle était la place de la lecture et d'écriture ? Alors, quelle était la probabilité d'écrire un livre ?
La probabilité d'écrire un livre, oui. Je ne l'avais pas évalué à ce moment-là. Je ne l'ai jamais évalué. Mais disons que quand j'ai mis un terme... d'une part, je pense que j'ai toujours eu besoin de reconnaissance par des professeurs, mais aussi par mon entourage. Et donc, écrire, ça pouvait permettre une certaine construction de sa personnalité, me rassurer sur ce que je pouvais faire, sur mon potentiel. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais
c'est une probabilité, comme une autre.
Alors, voilà. Non, parce que les probabilités, on ne peut pas les calculer sur n'importe quel objet. Il faut que la probabilité ait un rapport avec le hasard. Il faut que ça soit un hasard qu'on appelle mathématisable. Par exemple, on ne peut pas trop évaluer la probabilité qu'il fasse... je ne dirais pas qu'on perde son parapluie, par exemple. Ce n'est pas scientifique. Par contre, on peut faire la probabilité qu'une punaise tombe sur sa tête ou sur sa pointe, ou sur un dé, ou sur une pièce, ou sur tirer des boules dans des urnes. Mmh.
Alors, ton premier livre date de 2000 et s'intitulait « La structure des hiérarchies scolaires ».
Hein, oui, c'est ça. Les quatre premiers livres sont extraits de ma thèse de doctorat.
D'accord.
Qui faisait 1000 pages, que j'ai mis, j'ai passé de 1996 à 2004 à l'élaborer. Et donc, à partir de ça, j'ai pu scinder la publication de quatre ouvrages distincts et différents.
Donc l'envie d'écrire autre chose que sur les hiérarchies scolaires et l'histoire du calcul des probabilités est arrivée quand, là ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais coincé dans un bouchon. J'écoutais Guillaume Erner sur France Culture et il interrogeait son invité et il lui avait posé la question à la fin de l'interview. Il lui demandait, mais au fait, qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait ? Et en fait, j'ai coupé le son et je me suis dit, mon petit Bernard, qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas fait ce que tu avais fait ? Alors, il m'est venu à l'idée deux personnages. J'aurais bien aimé Zorro, mais bon, je ne monte pas à cheval, je ne sais pas trop me battre à l'épée. Et à l'époque, j'avais pris du poids, je ressemblais plus au sergent Garcia qu'à Zorro. Et donc, la deuxième personne qui m'était venue à l'idée, c'était Columbo. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais je sais un peu pourquoi. Je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de m'intéresser au personnage de Columbo.
Bien. Dans ton premier roman, donc, La femme du lieutenant, est paru le 28 novembre 2022 chez Nombreuses Éditions. L'écriture a été rapide ?
Était rapide ?
Oui.
Je ne crois pas. Deux ou trois ans.
Ah oui. D'accord. Alors, quelle idée d'écrire, la question se pose, hein, d'une histoire avec comme héroïne la femme du lieutenant Columbo. T'étais fan de la série ?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, pourquoi d'abord je voulais m'intéresser à Columbo ? Parce que, d'une part, tout le monde le prenait pour un demeuré. On se moquait de lui. Il faisait pas sérieux. Il était méprisé un peu. Et puis d'autre part, dans ses enquêtes, il les résolvait souvent par l'attention qu'il portait aux détails. Je passe sur ces deux cas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un autre moment donné, est paru un roman, l'un qui a été produit par Kamel Daoud, qui vient d'avoir le prix Goncourt, qui était le prolongement du roman de Camus qui s'appelle L'étranger. En fait, dans L'étranger de Camus, il y a un meurtre. Et tout tourne autour de la personne qui a commis le meurtre. Et Kamel Daoud s'intéresse à la personne qui a subi le meurtre. Et donc, il invente une histoire de la personne qui a été tuée. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'imaginer une histoire avec quelqu'un qui est ignoré dans une première version. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu, par exemple, que... Dans le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, à la fin du roman, quand Emma Bovary meurt, elle a une fille de 15 ans. Je me suis aperçu qu'il y avait des écrivains qui s'étaient emparés de cet événement pour écrire la fille de l'histoire de la femme de Emma Bovary, la fille d'Emma Bovary. Donc je me suis dit, tiens, il y a un potentiel de créativité qui s'ouvre à moi. Je pourrais peut-être... inventer l'histoire d'une femme qu'on ne voit jamais. Et donc, tout ça mélangé, tout ça mis dans une marmite, fait que je me suis intéressé à la femme de Columbo. Donc j'ai revu presque tous les épisodes, et je me suis aperçu effectivement que s'agissait d'une femme parlée, c'est-à-dire d'une femme dont qu'on ne voyait jamais à l'écran, et qui nous était présentée uniquement... par son mari, qui c'était lui seul qui en parlait. Il y avait un mystère là. Donc j'ai essayé de proposer une vie à cette femme invisible.
Donc la femme du lieutenant raconte la vie de la femme d'un célèbre policier de Los Angeles, que plusieurs générations ont connu grâce à la série télé Columbo, et à son acteur Peter Falk, hein, puisque les 69 épisodes ont été tournés entre 1968 et 2003. Il y a aussi une enquête à résoudre dans votre roman, dans ton roman. Tu avais envie d'écrire le 70e épisode ?
Non, je ne crois pas, parce que déjà, je me suis interrogé pour savoir si j'avais le droit de faire ce que je faisais. D'ailleurs, j'avais très très peur d'avoir des ennuis avec les producteurs de la série Columbo. C'est pour ça d'ailleurs que dans le roman, je ne le nomme pas spécialement. Je dis simplement qu'il s'appelle Franck Colomb et que par erreur, un O a été ajouté à la fin de son nom. Mais j'ai fait attention à ce que je n'ai pas d'ennui avec les producteurs de la série, les producteurs des droits, les possesseurs des droits. Mais non, je n'avais pas envie de... J'ai eu l'idée d'écrire la vie de cette femme invisible et je me suis dit que c'était bien d'articuler ça à une enquête de son mari dans lequel elle aurait un rôle et dans lequel elle l'aiderait à résoudre cette enquête.
Alors sur la pochette de votre roman, on voit la photo d'une femme que l'on pense censée ressembler à la femme de Columbo. Là, tu l'as mis un visage.
Un mystère, oui, c'était un choix. Alors, je vais expliquer un peu le choix. Déjà, au début, je ne voulais pas mettre un visage puisque comme ça permettait à chaque lecteur et à chaque personne qui regarde la série d'imaginer un visage à cette femme. Mais il se trouve que j'étais en relation très proche avec une artiste burgienne qui fait d'ailleurs l'actualité en ce moment puisqu'elle expose à H2M. C'est Véronique Elena, Mémoire intime d'un territoire. Véronique Elena, artiste plasticienne internationalement reconnue, notamment pour sa création en 2015 des vitraux manquants de la cathédrale de Strasbourg, où elle a réalisé une première mondiale en articulant création du vitrail et photographie. Et donc, en étant très proche, j'ai eu accès à la photo de sa maman. Sa maman, qui était originaire de Bourg-en-Bresse, qui est malheureusement aujourd'hui décédée, et qui correspondait assez bien à l'idée que je me faisais de la femme de Colombo, puisque j'ai inventé aussi, j'ai oublié de le préciser, une histoire du passé du lieutenant Colombo et de Madame Colombo, c'est-à-dire j'aurais inventé des origines italiennes et des ancêtres. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette femme est en couverture du livre.
Dans votre roman, il y a l'enquête justement que mène le lieutenant Colombo, et sa femme ne peut s'empêcher de s'en mêler, hein, puisque son mari lui raconte tout. On a l'impression qu'elle en a un petit peu marre d'être la femme d'eux. Elle veut vivre aussi sa propre vie.
Alors oui, disons que je ne sais pas. Oui, elle en a peut-être sans doute. Enfin, c'est ce que j'ai imaginé, ouais. d'être effacée, d'être la femme d'eux. Et suite à un événement, un retour sur le passé, un héritage, elle va avoir la possibilité de changer de vie, si je puis dire, et de se réaliser, de s'émanciper.
Ouais. Vous avez conçu la femme du lieutenant comme à la fois un roman policier et un roman d'aventure. C'est facile de ne pas trop s'éloigner de l'un et puis de ne pas tomber dans l'autre genre.
C'est la première fois que j'écris un roman, c'est peut-être aussi la dernière fois. Donc je ne sais pas, disons que c'était un travail fin d'articulation, j'ai bien aimé la structuration du roman.
Alors, vous n'êtes pas arrêté en si bon chemin, puisque moins de 2 ans plus tard, le 25 juin 2024, plus exactement, paraît toujours Ces nombres 7, votre quatrième livre, votre quatrième livre, tentative, un court essai autobiographique. Alors, d'où vous est venue l'idée de raconter à votre façon votre histoire ?
Alors, en fait, j'ai fait des études de sociologie. Et donc, j'ai travaillé avec un sociologue lyonnais éminent qui s'appelle Bernard Lahire, qui a réalisé à un moment donné des travaux sur ce qu'il appelle les portraits sociologiques, c'est-à-dire qui interrogeait des gens, des individus, sur leur disposition. Et en fait, la question fondamentale, c'est comment on devient ce qu'on devient et par quel processus on pense ce qu'on pense. On aime ce qu'on aime, on n'aime pas ce qu'on n'aime pas. Comment se forment nos goûts et nos dégoûts, nos choix, nos manières d'être, nos manières de penser, nos manières de juger, nos manières de sentir, nos émotions, nos manières de faire ou de ne pas faire, nos choix, etc. etc. Donc ce travail, il l'a fait sur des personnes interrogées. Et moi, je me suis intéressé, parce que j'avais peut-être pas des comptes à régler, mais des choses à éclaircir dans mon parcours et dans mon passé. J'ai essayé d'utiliser une méthode scientifique, sociologique, pour comprendre comment j'étais devenu ce que je suis devenu, comment j'en suis arrivé à ce que ma vie soit comme ça, mes choix, mes non-choix, les problématiques des bifurcations, voilà. Donc j'ai fait une introspection. Alors j'ai fait ce qu'on appelle c'est pas un récit autobiographique, c'est ce que j'ai appelé, grâce à une amie chercheuse qui s'appelle Françoise Atchuel, ce qu'on appelle une fiction de soi. Une fiction de soi, c'est comme un récit de vie, mais on a conscience que ce qu'on raconte est influencé par ce que les gens en disent et nous racontent. Par exemple, ce que les gens racontent sur notre enfance quand on est tout petit, quand on a 2-3 ans. Et donc, ça peut être qu'une fiction de soi, ce qu'on raconte sur son passé, sur notre devenir, sur la manière dont on est constitué. Voilà.
Vous avez un petit peu romancé votre...
Non, pas du tout. Là, il n'y a absolument rien de romancé. D'accord. C'est
c'est du véridique.
Distant, scientifique, si je puis dire.
D'accord. Donc sur la pochette de Tentative, on retrouve une photo d'un petit garçon en culotte courte avec un drôle de chapeau. Si c'est toi, c'était avant ou après avoir contracté la tuberculose ?
Alors je pense que c'est avant. Et donc, c'est moi à 2-3 ans. Et alors, petite remarque de parenthèse aussi. Cette photo, on peut la retrouver non seulement sur la couverture du livre Tentative, mais aussi dans l'exposition que Véronique Elena consacre au portrait burgien, qui est actuellement visible à H2M. C'est sur, et je suis retourné donc sur les lieux de la photo, qui est à la basilique du Sacré-Cœur à Bourg. Et donc, je me suis assis sur les marches à l'endroit où la photo initiale à 3 ans a été prise. Et donc, on a refait une photo avec la photo d'enfance. En fait, ça s'inscrit dans le projet général de Véronique Elena, qui a mémoire intime de territoire, c'est-à-dire elle a demandé aux habitants de Bourg de trouver un lieu qui fait sens pour eux, un souvenir, un lieu, et de retrouver une photo dans leurs archives qui permet de revenir sur un passé et sur un lieu de mémoire.
C'est facile de raconter sa vie et à travers elle ce qu'il y a de plus personnel, de plus intime.
Alors, c'est difficile, mais c'était nécessaire. Donc, j'assume toutes mes erreurs, toutes mes fautes même. Mais je reviendrai par contre sur le titre qui s'appelle Tentative. Mmh. Parce que je pense que notre vie se résume à une succession de tentatives. On tente des choses, elles ratent, elles réussissent. On prend une claque, on échoue, on se remet en question. La vie est une succession de tentatives, voilà ce que je pense aujourd'hui.
Pour raconter ton histoire, tu as eu besoin de faire des recherches où tu avais tout en tête ?
Non, je n'avais pas trop de recherches à faire, simplement peut-être sur... mes grands-parents, peut-être. Enfin, oui, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Je rappelle une chose qui m'avait fait sourire, par exemple, c'est sur mon père. Mon père a été prisonnier de guerre, d'ailleurs, d'abord. Et il a été chef des gardiens de la paix à Bourg-en-Bresse. Et donc, je me souviens qu'il faisait son marché, c'était peut-être pas le mercredi, c'était peut-être le jeudi ou le samedi. Et il ramenait dans le panier à salade des produits du marché. J'ai toujours pensé que la notion de panier à salade était utilisée parce que ça permettait de ramener les produits du marché. Donc je ne voyais pas pourquoi ça s'appelait un panier à salade autrement. Non, sinon, sur mon enfance, c'est pour ça que ça s'appelle une fiction de soi, c'est-à-dire ça a été souvent... renouvelé et redit, et au bout d'un moment, ça s'ancre dans la mémoire.
Tu as écrit un tentative pour des personnes en particulier ?
Non, pour personne, et puis pour moi, peut-être pour laisser une trace, et puis surtout pour initier une méthode qui s'ouvre, qui pourrait s'élargir à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pourrait s'interroger sur comment on se construit, pourquoi j'ai des idées de gauche ou des idées de droite, pourquoi j'aime le chocolat, pourquoi j'aime cette musique-là, pourquoi j'aime pas celle-là, pourquoi j'habite à la campagne et pas à la ville, pourquoi j'ai tel type de références sexuées, etc., etc. Pourquoi j'aime telle musique ? Comment ça se fait ? Comment ça se produit ? Alors, j'ai identifié plusieurs choses. Ça se fait à partir des institutions qu'on traverse, la famille, l'école, les clubs de sport, etc. Mais ça se fait aussi, évidemment, à partir des personnes qui nous entourent. Et puis, ça se fait à partir des rencontres, des rencontres plus ou moins harmonieuses ou disharmonieuses qui émane de notre vie. Donc comment en fait, mon livre est plutôt un manuel de méthodologie qui s'interroge sur comment on devient ce qu'on devient et pourquoi on pense ce qu'on pense, et en donnant des outils théoriques pour le faire.
Alors comment réagissent celles et ceux qui vous connaissent et qui ont lu Tentative? Tu les as surpris?
Oui, enfin, ce qui surprend surtout les gens, c'est mon passage dans des écoles militaires qui correspondent, puisque mon père était, m'a inscrit à l'école militaire d'Autun de 6e en 3e. Et j'ai passé 4 ans, et donc ils ignoraient ce passage-là, qui est un passage structurant pour moi. D'une fois, pour mon rapport à mon opposition à l'autorité, à la discipline, à l'armée, et puis aussi pour le fait que j'ai développé. Il y a une telle ambiance de travail que c'est là sans doute que j'ai pu construire des dispositions pour les mathématiques. C'est-à-dire on est tellement poussé à travailler, et il y a un tel suivi disciplinaire que quand je suis arrivé au lycée Lalande en mathématiques, je me baladais quoi, quasiment. C'est-à-dire que on a une telle formation de travail, pas forcément de niveau, mais de travail. Et voilà. Et donc j'ai développé beaucoup de capacités de travail. Et puis ce qui fait aussi dans ma personnalité, ce qui était construit, c'est ce qui apparaît dans la lecture par les gens, c'est mon côté déterminé. C'est-à-dire j'ai un projet, je vais jusqu'au bout. Je n'abandonne pas malgré l'échec. Je prends une claque, je me relève. Je prends une claque, je me relève. Je prends une claque, je me relève, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je suis très, très persévérant.
Après avoir lu ton roman, est-ce que certaines personnes sont venues te voir et t'ont dit qu'ils te comprenaient mieux désormais ?
Alors, je ne sais pas s'ils m'ont dit qu'ils me comprenaient mieux, mais... Par contre, mais j'aime pas trop faire la promo de mes bouquins, donc j'ai du mal à dire les gens trouvent ça très bien, parce que déjà c'est très très bien écrit, paraît-il, c'est fluide, ça se lit bien, ça manie des choses théoriques mais accessibles, donc c'est pas tellement le problème de savoir s'ils me comprennent bien ou si c'est plutôt le problème de savoir si c'est plutôt bien écrit, quoi, en fait.
Alors, lorsqu'on parle d'auteur burgien, on pense inévitablement à Philippe Ridet puis Jean-François Dupont. Tu as des points communs avec eux, à part chez La Jeanne, vous êtes de la même génération?
Oui, puis on se connaît, puisque Philippe Ridet, je connais bien ses parents, j'ai bien connu ses sœurs, j'ai bien connu, puisqu'on a été surveillés ensemble au lycée Lalande. Okay. J'ai lu deux de ses livres. Voilà, et puis j'ai pas lu le dernier. Je lui ai fait des compliments pour l'avant-dernier. C'est quand même, il y a une certaine morgue dans sa manière d'appréhender les gens. Et puis du tout, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Lui, il est ancien journaliste au Monde, il a un réseau, il est invité à la grande librairie. On n'est pas du tout, on concourt pas du tout dans la même compétition.
Mmh. Jean-François Dupont ?
Je connais deux personnes, mais je le connais un petit peu, mais je n'ai pas trop lu ce qu'il faisait, mais je pense que c'est intéressant.
Bien. As-tu commencé l'écriture d'un nouveau livre ?
Alors, j'ai terminé là un projet d'écriture en relation avec Jean-Paul Rodet, qui est un ancien élu de la ville, qui est l'ancien adjoint à la culture, et l'ancien vice-président du Conseil général pour les affaires culturelles. Et on a fait un livre d'entretien sur 40 ans de la vie culturelle à Bourg. Donc le livre est terminé, il est en relecture. Il va être publié d'ici quelques semaines. Et puis sinon, moi j'ai commencé un autre livre, mais là je suis en difficulté. Je travaille sur un concept qui m'intéresse, c'est sur les bifurcations. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un choix dans la vie entre la voie A et la voie B, sachant ce qui se passe quand on prend la voie A et ce qui serait passé si on avait pris la voie B. Ça reprend un peu la thématique d'un film d'Alain Resnais qui s'appelait « Smoking, no smoking », où chaque fois, il se rejoue une scène où quelqu'un sort, par exemple, pour fumer une cigarette. où quelqu'un ne sort pas pour fumer une cigarette, et puis tout ce qui arrive comme événement qui se déclenche. Mais théoriquement, c'est assez difficile à écrire, et puis voilà, mais j'ai quelques idées quand même.
Bien, à tout à l'heure. Non, il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Bernard, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, mon dernier coup de cœur, j'aime beaucoup ce que fait Jean-Paul Dubois. J'aime pas forcément son dernier livre, mais j'aime beaucoup un de ses livres qui s'appelle Une vie française. Et puis aussi un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Paul Snyder, où il y a une adaptation de ce roman avec un film avec Thierry Lhermitte qui s'appelle La nouvelle vie de Paul Snyder. C'est l'histoire d'un homme, d'un individu qui, suite à un drame, change de vie et devient promeneur pour chiens.
Bien. Côté proposition de la quinzaine, notons alors le roman de Lisa Gardner, Dernière soirée, aux éditions Albin Michel. Le nouveau thriller de Christelle Duchamp, Où tu seras reine, aux éditions Verso. Le roman d'Isabelle Vilain, Game Over, aux éditions Tornada. Le livre de Daniel Schneiderman, Le charlisme, aux éditions du Seuil. Le thriller japonais d'Uketsu, Strange Picture, aux éditions du Seuil. Le thriller de Cédric Cyr, Survivante, aux éditions Michel Lafont. Le roman de Johan Gustafsson, Les morsures du silence, aux éditions Calmann-Lévy. Le roman de Nelly Allard, La manif, aux éditions Gallimard. Le roman de Sylvie Calais, Poupée, aux éditions Caïman. Et le roman de Véronique Prel, On dirait que c'était un accident, aux éditions Le Penseur. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces, Bernard, as-tu des rencontres et des séances de dédicaces dans la région proche à annoncer ? Je crois que oui.
Alors, il va y avoir un événement le 22 mars à la Chapelle Lalande avec un hommage à l'ancien proviseur du lycée Lalande qui s'appelait Marius Charnay, qui a fait beaucoup pour que la chapelle soit réhabilitée. Et donc, il y a un événement littéraire avec des dédicaces, un concert. Je pense que vous aurez plus de précisions et j'essaierai de vous en donner un peu plus.
Oui, bien, on va l'annoncer.
Sinon, il y a un événement que j'aime bien. C'est le 1er juillet. C'est à Vaux-en-Bugey, organisé par la Maison Panis. Tous les deux ans, ils organisent un festival. Je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, j'ai un trou. Un truc pour proposer des livres. Et donc, c'est vraiment très très sympa et très convivial, très agréable.
Bien. Et moi, on a une date annoncée le jeudi 30 janvier 2025 à la librairie du Centre à Ferney et Voltaire. Il y aura Sandrine Colette à 19h30.
Très bien.
Ouais. Eh bien, Roman Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Bernard Courtebras, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman Gare.
Merci.
Rappelons que tes deux derniers livres, La femme du lieutenant et Tentative, sont parus respectivement le 28 novembre 2022 et le 25 juin 2024 chez Nombre 7 Éditions. On peut s'y procurer où ?
Alors, on peut se les procurer dans les librairies locales, à Cultura, chez Montbarbon, chez la librairie du théâtre. Et on peut se les procurer sur le site de Nombre 7, et puis sur les plateformes, la Fnac, Amazon, et voilà, toute la clique.
Voilà. Et puis, on peut suivre votre actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux, un petit peu ?
Ouais, mais alors là, c'est plus compliqué. Et les réseaux asociaux, c'est compliqué.
Voilà, exactement. Le prochain invité de Roman Gare le jeudi 6 février 2025 sera la romancière caladoise Sylvie Calais. Elle nous présentera son nouveau roman Poupée, paru le 5 novembre 2024 aux éditions Caïman. Laurie, 25 ans, retourne vivre chez ses parents près de Toulon. Un père manipulateur, harceleur psychologique avec une mère soumise, sous emprise à la maison. Un environnement toxique pour Laurie jusqu'au jour où son père est retrouvé mort. en bas d'une falaise. Accident, meurtre, la vie de la jeune fille bascule, son histoire aussi.
Alors je salue au passage Sylvie Calais, puisque c'est une des relectrices de la femme du lieutenant.
D'accord, oui, et c'est vrai, tu la cites à la
et
fin.
Donc elle m'avait bien conseillée et elle est absolument compétente et charmante.
Ah oui, tout à fait. Bernard, bonne chance pour la suite de tes aventures d'auteur. Hein.
On verra. On verra. C'est pas grave s'il n'y a pas de suite et si ça marche pas, c'est pas grave.
Bien.
Ben, c'est des tentatives, tout ça.
Bonne séance dédicace, on peut le dire aussi.
Oui. Oui, mais hein, c'est pas important.
Non, c'est pas important. Et à bientôt sur Radio B alors.
Merci de votre accueil.
À bientôt.
Et de votre invitation.
C'est un plaisir.
Étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.